Et c'est l'heure d'aller parler à M. Michel Merlot pour son commentaire d'actualité. M. Merlot, bonjour.
Oui, bonjour à vous deux.
M. Merlot, ce matin, vous voulez nous parler de quelques... Il y a quelques sujets là, qui vous sont venus en tête, dont la menace chinoise. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il est question?
Oui, bien c'est ça. En ce dernier jour de mai, comme vous venez de le souligner, en pleine canicule, après des périodes de gel prolongées qui ont fait le malheur de nombreux vignobles des vergers au Québec... Nous, on s'en est quand même assez bien tiré. Je me sens prêt à aborder ce qui semble être la priorité numéro un du gouvernement fédéral, c'est-à-dire la menace chinoise ou l'ingérence chinoise dans nos affaires de l'État. Je pose la question, est-ce que les contribuables, c'est-à-dire vous et moi, se sentons vraiment menacés par les ingérences de la Chine dans leur quotidien? Je vous réponds bien humblement que non. Dans mon cas, je ne me sens pas menacé par cette ingérence chinoise. Pas au point où on en parle dans les médias et au Parlement canadien. Bien sûr que les échanges commerciaux avec la Chine viennent qu'à me rejoindre dans le rang 3, canton de Cameron, à Bouchette, où est situé mon verger. Mais leur manigance politique et intervention auprès des ressortissants chinois au Canada, qui se sont installés ici, souvent pour fuir le régime en place à Pékin, ça ne m'interpelle pas au point d'y consacrer toutes mes énergies. Je sympathise avec les victimes de harcèlement, de discrimination et d'oppression, car ça ne correspond pas à nos valeurs fondamentales, basées sur la liberté d'expression et d'autres libertés individuelles que l'on prend trop souvent pour acquise. Mais il est temps de passer à autre chose, à des enjeux et des défis qui définissent notre quotidien. Je suis d'accord avec Yves-François Blanchet, Bloc québécois, quand il disait hier qu'on se branche une fois pour toutes sur l'ingérence chinoise et que l'on passe à d'autres choses. Mm-hmm. À des choses qui concernent vraiment le quotidien des gens. Alors, on parle, par exemple, de la crise du logement, la pauvreté galopante de certains ménages, la main-d'œuvre, la création d'emplois, les changements climatiques, et j'en passe. On réclame une enquête publique. Personnellement, je ne suis pas convaincu que ça va donner grand-chose. Les demi-vérités qui vont sortir d'une telle enquête ne serviront pas le Canadien et le Québécois moyen, comme vous et moi, mais plutôt les politiciens qui préparent leur prochaine campagne électorale et les médias d'information, les journalistes, les vrais comme les autres. Alors, moi, je considère qu'on en a suffisamment parlé. J'espère que le premier ministre Trudeau va trouver autre chose que de s'entêter et finalement rejoindre un peu l'opposition ou accepter que l'opposition se joigne au gouvernement en place de façon à trouver une solution. Mais revenons à des choses un peu plus sérieuses, à savoir des quotas d'immigration acceptables pour le Québec pour y préserver le français tout en comblant une partie de la pénurie de la main-d'œuvre. Faut-il s'en surprendre? Le gouvernement de la CAQ et le premier ministre Legault a encore changé son fusil d'épaule, a encore changé d'idée, quelques mois après l'élection générale qui l'a reporté au pouvoir. Pour sécuriser sa base en milieu rural, une base qui craint d'être envahie par les immigrants, surtout s'ils ne parlent pas français, le PM Legault voulait restreindre les quotas d'immigration à moins de 50 000 par année. Depuis quelques jours, il parle maintenant de 60 000 immigrants économiques. Il parle déjà français et même quelques-uns qui ne parleraient pas français, mais qui désireraient s'installer au Québec.
Dépendamment du métier qu'ils pratiquent, oui.
Et voilà. Alors, naturellement, c'est un changement qui, selon moi, est positif, mais qui vient quelques mois après l'élection. Après qu'il eut pris la peine de sécuriser sa base, qui, pour une raison encore qui me surprend toujours, a peur de l'immigration, surtout en milieu rural. Alors, faut-il vraiment s'en surprendre? Faut-il se rappeler le changement d'idée, le changement de cap, par exemple, au niveau du troisième lien à Québec? C'était, selon moi, la chose à faire, mais ça vient après l'élection, c'est-à-dire après des promesses qui, finalement, ne seront pas réalisées. Et ça, de toute manière, c'est pour le mieux. Enfin, pour conclure sur une note un peu plus légère, parlons d'une tradition qui passera aux archives en novembre prochain, c'est-à-dire l'abandon par Desjardins du fameux livret de caisse.
Ben oui, ben oui. Mm-hmm.
On parle ici d'abandonner une pratique chère à certains baby-boomers au profit de la technologie. Ça va en insécuriser quelques-uns, mais ce n'est plus requis. On fait nos transactions désormais en ligne. On parle ici de progrès. C'est du moins ce qu'on nous laisse entendre. Mm-hmm. Alors voilà, c'était mon commentaire pour cette semaine.
Bien, en fait, deux, trois choses, M. Merlot. En ce qui concerne l'enquête publique par rapport à l'ingérence chinoise ou autre, on comprend que vous avez raison, là, ce ne sera pas nécessaire. C'est au niveau de la personne qu'on a choisie pour faire l'exercice qu'on n'est pas sûr. M. Johnson, qui a fait un très bon travail comme gouverneur général, par ailleurs, dans ses autres rôles précédents, il comme le jupon dépassé un petit peu, là. On sait qu'il y a des liens quand même très amicaux, très, très aimables avec la Chine, où ses trois filles ont étudié. Donc, je pense que c'était plus dans ce niveau-là que ça accrochait. Et en ce qui a trait à votre second sujet, c'est-à-dire l'immigration, je pense pas que ce sont les gens des régions nécessairement et les gens surtout les gens au niveau de l'agriculture qui craignent l'immigrant, puisque depuis des années, il y a des gens de l'Amérique latine qui viennent prêter main forte et qui ont une expertise qui est très, très saluée, en fait, que ce soit mexicain ou autre, qui est très, très saluée par les différents agriculteurs parce qu'ils sont bons, ils sont vite, ils sont productifs. Puis des fois, c'est plus long de former notre main-d'œuvre qui pourrait être pleine de bonnes intentions, mais qui vient d'ici. On l'a vu pendant la pandémie. Je pense que vous allez être d'accord avec moi là-dessus. Et quant au livret, bien, ça vient joindre toute une série de mesures qui, moi, je trouve, vient toujours un petit peu plus isoler les gens qui n'ont pas un très grand degré de littératie ou qui, tu sais, c'est bien beau là, mettre des caisses intelligentes, puis plus besoin de gens, on règle des problèmes au niveau de la main-d'œuvre, justement. Mais quand la personne n'est pas capable de lire ce qu'il y a sur l'écran, c'est pas facile. On vient isoler une partie de la population en faisant ça. Une partie, en tout cas, pas négligeable de la population. C'est comme de dire, ben, tu sais, tasse-toi, mon oncle. Je trouve ça, je suis bien, bien ambivalente par rapport à ça.
Oui, c'est ça. Mais je pense qu'on est rendu là et on doit l'accepter.
Ouais, pour le livret, je comprends ce que vous dites. Mm-hmm. Ouais,
ouais. Maintenant, au niveau de l'immigration, j'aimerais revenir sur ce que tu as dit par rapport à l'immigration. Oui. En milieu rural, rappelons-nous la première élection de la CAQ, rappelons-nous même la deuxième élection qui les a reportés au pouvoir. Je sens une réticence de la part des milieux, dans les milieux ruraux. Et là, j'exclus j'exclus l'agriculture. Parce que oui, depuis déjà un certain temps, on accueille des immigrants, occasionnels, saisonniers, pour aider à la culture. Mais avec le général, dans les milieux ruraux plutôt que les milieux urbains, et ça se voit au résultat des élections, on a une plus grande réticence par rapport aux immigrants, immigrants économiques en particulier. Maintenant, je pense qu'on est en train de passer par-dessus ça. C'est-à-dire qu'on commence à réaliser que si ce n'était des immigrants, des infirmiers, des médecins, des ingénieurs, des architectes et tout autre, on aura encore moins de services en région qu'on en a présentement. Je pense qu'on est en train d'évoluer. Et la décision du premier ministre de passer à 60 000 plutôt que de se restreindre en bas de 50 000, moi, je la salue. Ce que j'aime pas, c'est que ça vient après les élections, après qu'on eut sécurisé une base qui craint une certaine immigration et qu'on change d'idée. Moi, c'est là que j'en tiens, mais à part de ça, je pense que c'est la bonne décision à prendre.
Eh bien, merci de nous faire réfléchir à toutes ces questions, M. Merlot, et on vous retrouve pour la toute dernière fois de la saison la semaine prochaine. Un gros merci.
Et voilà, à la semaine prochaine.
Bye bye. Merci.